Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion vous propose ce soir d'effeuiller un livre d'histoire locale, celle de la formation des instituteurs à travers un ouvrage autobiographique signé de notre invité, Michel Maldonado. Elle a donc décidé de coucher sur le papier ses souvenirs d'adolescente qui intègre l'école normale d'Auxerre en 1965, décroche son baccalauréat en 1968 pour devenir d'abord institutrice puis professeure en collège. Après de nombreuses années passées à l'étranger, au Kenya puis au Nigeria, elle a été directrice d'Alliance française et attachée linguistique à Copenhague, puis à l'ambassade de France à Londres.
J'ai été longtemps active et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai eu envie de retourner sur le passé. Je suppose que dans notre vie, c'est comme ça. On a une période où on est actif et puis on a envie d'un certain retour, de mettre en place ses souvenirs, de fixer quelque chose. Et bon, c'est ce qui s'est passé là. Je suis partie... j'ai été accueillie par Auxerre, par cette région. Je m'y suis fait beaucoup d'amis, en particulier dans cette école normale. Puis je suis partie à l'étranger. Nous sommes partis à l'étranger pendant très longtemps. Pendant les grandes vacances, nous revenions en Auxerre, donc nous revoyons nos amis. Et puis un jour, je suis revenue pour de bon. Et là, ma fille a été élève à l'école annexe de l'école normale et je suis revenue dans ses locaux. J'ai retrouvé beaucoup de collègues qui étaient enseignants, qui étaient encore en activité. Et j'ai eu envie, une fois de plus, comme pour l'Algérie, j'ai eu envie de raconter tous ces moments de bonheur, puisque pour moi, ces années d'école normale, ça a vraiment été des années de bonheur.
Alors, vous êtes scolarisée au lycée Paul Bert d'Auxerre, en section C, et puis vous êtes une adolescente de 14-15 ans, vous intégrez l'école normale d'Auxerre, donc bâtiment qui existe toujours, qui aujourd'hui est le siège de l'IUFM. Alors je rappelle que c'est l'Institut universitaire de formation des maîtres, mon Dieu, et qui se trouve à Auxerre, au 24 rue des Moreaux. Et donc là, Michel Maldonado, ce bâtiment et cette rue des Moreaux, c'est le début d'une carrière qui finalement s'est terminée ou va se terminer au moment où nous enregistrons, puisque vous allez goûter à la retraite.
Oui, mais oui, là, c'est ma dernière année et j'ai fait vendredi mon dernier cours, puisque la semaine prochaine, je pars en voyage scolaire en Angleterre et là, c'était vraiment mon dernier cours. Et cette semaine, je suis retournée à l'IUFM rechercher les derniers documents que j'y avais laissés et mon énorme sac de peluche, puisque j'ai formé les instituteurs, enfin les professeurs des écoles. À l'enseignement de l'anglais et donc en utilisant, en jouant avec des peluches, entre autres.
Alors expliquez-nous ce que représente, à votre époque, en 1965, vous qui êtes fille d'institutrice, ne l'oublions pas, votre père était coiffeur, que représentait, dans le début des années 60, l'accès à l'école normale ?
Alors l'école normale, c'était... Bon, moi j'étais au lycée, et l'école normale n'était pas très très bien vue par mes copines. L'école normale, c'était bon, devenir institutrice, c'était faire ce que ma mère faisait, c'est-à-dire travailler d'arrache-pied et puis s'ennuyer pendant les vacances. Moi, c'était l'impression que j'en avais. Et je n'avais pas vraiment envie d'aller dans cette école normale. Et j'ai été piégée, en fait.
Allons donc.
J'étais en seconde et puis je n'étais pas très bonne en français et ma mère m'a dit écoute, va suivre les cours de préparation à l'école normale, ça t'aidera, ça te fera du bien et puis rien ne t'empêche d'entrer dans de passer le concours. Et j'y suis allée vraiment pour m'améliorer en français. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en seconde, on était dans une classe de 50 élèves. On était la seconde A, A'CB, donc ils avaient mis les quatre groupes ensemble. Donc on était une classe de 50, on avait du mal à entendre le professeur, alors que dans ce petit groupe de préparation à l'école normale, on faisait la même chose en fait, on étudiait des auteurs très très intéressants, mais nous étions une dizaine. Donc chacun pouvait parler, donner son avis, poser des questions, et tout d'un coup j'ai découvert un enseignement de français beaucoup plus intéressant que celui du lycée. Et je me suis fait piéger, vraiment, je me suis laissé piéger facilement.
Alors, un piège qui va durer 4 ans de formation. Donc, vous passez le baccalauréat au sein de l'école normale.
Oui, oui.
Et alors, vous réussissez le concours pour préparer gratuitement l'école normale, moyennant un engagement de 10 ans.
Oui, il
que
fallait
vous devez
rester 10 ans.
À l'éducation, ouais. À l'éducation nationale. Alors, effectivement, vous n'aviez pas le droit, à partir du moment où vous étiez engagé dans cette formation et dans ces 10 ans que vous deviez offrir à l'éducation nationale, vous ne pouviez donc ni démissionner, ni être renvoyé. Or, il y a eu le cas, par exemple, d'une de vos camarades de promotion qui, finalement, kleptomane impulsive, a failli quelque part subir les foudres de la direction. Quelque part, elle a été... presque amnistiée.
Mais oui, parce que bon, elle avait un problème. Bon, nous, ses camarades, ne savions pas ce qui se passait chez elle, mais elle avait certainement des problèmes personnels dont les professeurs ont tenu compte, et elle a simplement été mutée ailleurs. Et on lui a donné sa chance, et elle en a profité puisqu'elle est devenue institutrice à son tour.
Qui a eu cette idée folle? Un jour d'inventer l'école.
Qui a eu cette idée folle? Un jour d'inventer l'école.
C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennui, et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne.
Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que deux.
Sacré
Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Sacré Charlemagne. Participe passé.
Participe passé.
4 et 4 font 8.
4 et 4 font 8.
Leçon de français.
Leçon de français.
De mathématiques.
Que deux.
Travail.
Sacré
Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh.
Vous parlez beaucoup de chance. À cette époque, dans les années 60, intégrer l'école normale, c'est intégrer un formidable ascenseur social. Voilà. Ça, vous y insistez beaucoup dans le début de votre livre, dont je rappelle le titre, « Les beaux jours de l'école normale » aux éditions de l'Harmattan.
Pour nous, c'était vraiment une chance parce que nous étions pour la plupart filles de gens modestes. Et c'était le seul moyen, c'était pour ainsi dire le seul moyen d'obtenir, de se faire un avenir agréable, disons.
Vous écrivez avoir passé 4 ans d'un enseignement de qualité dispensé dans un climat d'études idéal. Alors moi, j'ai envie de vous demander, Michel Maldonado, que veut dire un climat d'études idéal ? Parce qu'aujourd'hui, l'actualité aurait tendance à mettre un peu en avant le désordre, l'anarchie, les violences d'élèves. Alors, ce n'est pas systématique, mais de l'extérieur, on a une image un petit peu inquiétante du monde de l'éducation nationale. Que représentait ce climat d'études idéal ?
Alors déjà, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions 50 dans la classe de seconde en français. À l'école normale, nous étions des classes de 25, 4 classes de 25, donc avec les mêmes professeurs. Les professeurs connaissaient donc très très bien leurs élèves et nous avions vécu une relation presque d'intimité, parce que si nous avions le moindre problème, nous pouvions aller taper à leur porte, discuter avec eux et c'était...
Il y a quelque chose de l'ordre de l'affectif.
Exactement. Et puis, il y avait aussi cette confiance qu'on nous faisait. On nous faisait une totale confiance. Et puis, nous savions vraiment respecter cette confiance qu'on nous faisait.
Par rapport à votre vie familiale, avec un père autoritaire, si je peux me permettre... voire tyrannique, puisque c'est ainsi que vous le présentez dans votre témoignage sur Assi Mamèche, l'Algérie de notre enfance. L'école normale, ça a été le lieu des premières libertés.
Ça a été le bol d'air, oui, tout c'était... à fait. Donc on travaillait, ça, on avait un travail, des horaires de travail très très importants, puisque même le jeudi, normalement le jeudi après-midi, c'était, à l'époque c'était le jeudi, hein, le jour de vacances, de congé, même ce jour-là, on retournait à l'étude, on travaillait vraiment très dur, on préparait nos leçons très... très sérieusement, mais nous avions cet espace de liberté que je ne connaissais absolument pas. Nous pouvions aller à tous les concerts, nous avions des activités sportives que nous pouvions choisir, sélectionner à notre... et nous pouvions vraiment... on nous faisait confiance. Moi, c'est ça qui m'a marqué parce que mes parents ne me faisaient absolument pas confiance. Et là, j'étais dans l'activité marionnette, je participais à l'activité marionnette, et c'est moi qui allais choisir les tissus en ville. Mais jamais ma mère ne m'aurait laissé partir en ville toute seule. Elle m'aurait accompagnée, et je crois que c'était un honneur qu'on nous faisait, et nous voulions vraiment être à la hauteur de cet honneur.
Turn the wider. but first just go sleep. Turn the wider shade of fair.
La suite de Wagon Livre aujourd'hui avec notre invité Michel Maldonado pour son livre intitulé « Les beaux jours de l'école normale », l'occasion de revenir avec elle sur sa formation d'institutrice à l'école normale d'Auxerre, 6 rue des Moreaux, devenue aujourd'hui l'actuel institut universitaire de formation des maîtres. Vous parliez de cette confiance que l'on vous faisait, vous étiez considéré comme finalement des jeunes gens dignes de confiance. Alors, l'école normale est le lieu d'apprentissage des valeurs. Vous écrivez au tout début de votre livre, « Nous aurons pris conscience de la valeur de l'effort, quel qu'il soit. Nous respecterons les travailleurs et apprendrons à nos enfants à les respecter indifféremment de leur fonction, de leur âge ou de leur couleur. » Alors, Michel Maldonado, ce qui est absolument incroyable, c'est que vous touchez à toutes les disciplines dans cette école normale. C'est aussi bien parce que vous êtes amené à devenir des éducateurs polyvalents. Mm-hmm. Donc vous faites du sport. Alors puisqu'on parle de sport, peut-être pourrais-je vous inviter à évoquer la figure d'un couple d'enseignants auquel vous rendez hommage dans votre...
Oui, l'ENIPS. Monsieur et Madame Nibourel. Alors, c'était un couple d'enseignants très énergiques, très actifs, qui nous redoyaient un petit peu au départ. On avait un petit peu peur de... Enfin, les garçons avaient Monsieur Nibourel et nous, les filles, avions pour professeur sa femme, Madame Nibourel. Je dis à un moment donné que ces gens-là étaient montés sur des ressorts. Ils étaient toujours en train de sauter, en train de proposer des activités. On n'avait pas 5 minutes pour souffler. On sortait du cours d'histoire, il fallait absolument être prêt dans les 10 minutes. Et donc au début, on se sentait un petit peu bousculé. Et puis peu à peu, on s'est rendu compte que Madame Nibourel était quelqu'un de très 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 humain, qu'elle savait respecter nos limites et elle savait surtout nous motiver. Et ça, il y avait encore cette confiance, hein, cet aspect de confiance et cette valorisation. Elle savait nous valoriser et elle savait nous motiver.
Elle vous demandait aussi de vous dépasser un peu.
Oui, et on faisait, en fait, ce qu'on faisait, c'était pour lui faire plaisir. Quelquefois, on était fatigué et on faisait quand même les activités pour lui faire plaisir.
Alors, pour lui faire plaisir, vous faites de l'escalade, du canoë-kayak. Et vous faites même, Michel Maldonado, du basketball. Et alors là, il y a une page terriblement amusante où vous parlez de ce dramatique match de basketball avec beaucoup d'humour.
Ça a été le traumatisme de notre vie. C'était peut-être 15 jours après l'arrivée à l'école normale. Personne n'avait jamais fait de basket. Et nous étions une équipe, nous étions les cadettes, hein, donc les plus jeunes de l'école. Et on nous annonce que le premier match que nous ferons aura lieu, se déroulera contre les championnes de Bourgogne. Donc, nous étions déjà très, très inquiètes. Et puis, nous sommes arrivés au collège d'Enfer Rochereau. Les garçons, les normaliens, étaient au courant de ce match. Donc, c'était le premier match qui se passait à l'école normale. Donc, ils sont venus nous voir. Ils étaient au premier étage, ils nous surveillaient, ils nous regardaient. Et puis le match a commencé, mais ça a été une horreur, parce que le ballon était aussitôt servi, aussitôt dans le panier. On n'avait pas le temps de voir, on n'avait pas le temps de se retourner, la balle était déjà dans le panier. Et ça a été l'horreur, 102-1,
voilà.
Et encore à cause d'un coup franc.
Et vous écrivez cette phrase très lapidaire, score spectaculaire et historique, nous sommes battus 102-1 grâce à un coup franc.
Oui. Et j'ai entendu parler de ce match toute ma vie, puisque celui qui allait être mon mari avait assisté au match. Donc toute ma vie, j'ai eu droit à la réflexion, aux petites allusions ironiques à
votre performance.
Voilà, nos performances extraordinaires en basket.
Pour revenir à votre formation d'institutrice, alors vous pratiquez aussi les danses folkloriques, c'est très très danse folklorique. Donc les activités manuelles, bon, vous avez parlé des marionnettes.
Oui.
Alors ces marionnettes, quelque part, elles ont été stockées dans les greniers de l'école normale et vous les avez retrouvées.
Je les ai retrouvées des années après, 20 ans après facilement. En montant dans le grenier pour repasser le costume de ma fille qui était à l'école annexe et qui devait faire un spectacle. Et j'ai vu dans un coin nos marionnettes. Alors vraiment, ça m'a donné un coup au cœur. Déjà, j'avais beaucoup de nostalgie à retourner dans cette école normale qui sentait qu'il y avait la même odeur, dont je retrouvais aussi les couloirs que j'avais arpentés en récitant mes leçons. Et puis, quand je suis montée dans ce grenier et que j'ai retrouvé les marionnettes, ça a été vraiment le summum. Mais il n'y a pas seulement les marionnettes, il y a aussi... on parlait des sports tout à l'heure, avec le basket, les danses folkloriques. Dans le cadre des sports, il y avait une activité qui était extrêmement importante, c'était l'activité de chansons. Tous les jours, avant le cours... nous devions nous préparer et le professeur attendait 5-10 minutes avant d'arriver et nous devions nous installer, nous asseoir par terre, hein, sur le balatum, dans le gymnase. Donc nous étions assises en ligne et quelqu'un, à chaque cours, une autre élève était chef d'orchestre. Et à ce moment-là, nous devions chanter des chansons. Et au début, nous venant de seconde, qui étions plutôt du style Johnny Hallyday, Brigitte Bardot, mais Sylvie Vartan, on trouvait ça vraiment grotesque, hein, ces petites chansons de colonies de vacances.
Oui, à côté des Beatles, des Rolling Stones,
oui.
Pink Floyd, Santana, c'est sûr que...
On trouvait ça vraiment ignoble. Et puis petit à petit, eh ben, on s'est mise à aimer ça. Alors c'était Fleur d'épine, Fleur de rose, les chansons de Guy Béard, toutes ces chansons françaises.
Que vous en avez une là que vous pourriez nous chanter, au moins le début?
Non, mais à part que je chante faux. C'était Fleur d'épine, Fleur de rose, c'est un nom qui coûte cher, oh, car il coûte, car il coûte, car il coûte le double du triple de la valeur de cent écus, tra la 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 la, etc. Bon.
Et donc, c'était une activité importante.
Et ça faisait encore partie de notre formation. À l'époque, on ne s'en rendait pas compte. Mais autant les danses culturelles que le basket, que les activités d'escalade, de canoë, que ces activités de chansons faisaient partie, tout cela faisait partie de notre formation puisque nous allions être instituteurs et nous allions utiliser tout cela avec nos élèves. De même aussi que la couture, hein, on nous a appris à coudre, à faire la cuisine, tout ça, on était vraiment polyvalent.
Ce qu'on appelait l'école ménagère.
Ouais. On avait absolument tout, oui. On était formés dans tous les domaines. On était formés aussi, tout à l'heure vous parliez du respect des gens, des techniciens de surface, tous les matins... quand nous sommes arrivés à l'école normale, nous devions arriver avec notre balai, notre brosse, notre pelle. Et tous les matins, chaque élève avait un coin de l'école normale à nettoyer. Donc ça durait une demi-heure. Et pendant 4 ans, nous avons nettoyé notre coin. Alors l'année suivante, on changeait de coin, bien sûr. Mais nous avons appris à nettoyer les vitres, à faire le ménage. On a vraiment touché à tout, ce qui nous a permis de respecter les gens qui le faisaient plus tard. Et de dire à nos enfants aussi, de donner à nos enfants le respect du travail.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on garde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non, comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Et puis vous avez acquis aussi une grande culture littéraire à travers ce que vous appelez la transgression littéraire. Il semblerait, il semble que Monsieur Lemolle, pseudonyme d'un personnage mou,
Monsieur Bourgeois,
a été pour vous un révélateur culturel,
oh oui,
littéraire, oui. Personnage marquant.
En arrivant à l'école normale, nous avions un professeur, une dame, en fait, qui était très, très traditionnelle, traditionnaliste, qui censurait Iphigénie, par exemple. Il fallait quand même le faire. Et l'année suivante est arrivé ce monsieur Bourgeois qui enseignait aux garçons, en fait. Et en fait, pendant la première, quand j'étais à l'école normale, pendant la première année, nous étions séparés. Les filles et les garçons étaient séparés. Et à partir de la deuxième année, il y a eu l'établissement d'une mixité. Et les garçons, nous étions dans la partie littéraire. Donc les garçons littéraires descendaient de l'école normale pour venir chez nous. Et les filles scientifiques montaient à l'école normale des garçons. C'était Avenue Pasteur. Et donc nous avons hérité, les scientifiques ont hérité de notre professeur traditionnel.
Ratati.
Et nous avons hérité, nous avons eu la chance énorme d'hériter de Monsieur Bourgeois. Et alors là, ça a été un changement, vraiment un changement radical, parce qu'il nous provoquait, il nous donnait des petits poèmes tout à fait mesquins, et il nous demandait ce qu'on en pensait, et puis ensuite pour mieux les démolir. Et il nous a fait connaître, des tas de poètes, de romans. Il nous disait, il ne demandait pas d'apprendre un poème, il nous demandait de choisir un poème entre telle et telle période, dans telle et telle année. Et c'était une joie pour nous, c'était un point d'honneur de trouver le meilleur poème, le meilleur poète. Et donc pour cela, il fallait vraiment aller fouiller dans les bibliothèques. Et c'était à celui ou celle qui allait revenir avec le poème le plus original. Et il a fait la même chose pour les romans. On devait lire un roman entre telle et telle année. Et c'était la même chose. On cherchait, on fouillait, et il nous a fait lire, mais énormément. On lisait énormément. Alors qu'avec notre Ratati, c'était un livre à l'année, quoi, ou deux livres à l'année, et il fallait voir le livre, quoi. C'était toujours quelque chose de très traditionnel.
Alors, pour évoquer ce professeur, Monsieur Bourgeois, que vous surnommiez Le Molle pour son air bonasse et un rien dilettante, vous écrivez « Nous apprenons à connaître des gens aussi divers que Camus, Éluard, Beckett et Henri Michaux. Nous vivons par procuration la tragédie de l'écume des jours. Nous apprenons par cœur les chansons du disque de Boris Vian que notre camarade de classe Nanou a déniché chez un bouquiniste parisien. Son poème du condamné, Je ne voudrais pas mourir, il suffit que j'aime, bouleversant de tristesse, me retourne l'estomac. Soudain, au détour d'un texte, nous découvrons la formidable beauté de la transgression littéraire. Mmh. Voilà. Donc là aussi, une école de liberté intellectuelle. Alors, vous avez parlé des poètes. Ce qui m'a énormément intéressé, entre autres, c'est le culot, peut-être, et l'audace que n'auraient pas des jeunes gens aujourd'hui. Deux de vos camarades, Nanou et Gasti, vont écrire à un poète qui, finalement, est un poète, d'école primaire, même si Michel Houellebecq a dit de ce poète qu'il était un con. Mais c'est Jacques Prévert.
Mmh. Oui. Et c'est encore une fois grâce à Monsieur Bourgeois qui les a encouragés à aller le voir. Donc Nanou et Gasti ont écrit à Jacques Prévert, qui a accepté de les recevoir. Et quand elles sont revenues, c'était pour nous un émerveillement, parce qu'elles revenaient et elles nous ont raconté des anecdotes. Et cet homme, qui était alors un vieil homme, les a reçus avec une gentillesse incroyable et les a respectés absolument. C'était vraiment très très bien.
Et Jacques Prévert vous a beaucoup marqué, parce que le livre commence sur un pastiche du célèbre poème de Jacques Prévert, pour faire le portrait d'un oiseau, peindre tout d'abord une cage, magnifique poème. Que l'on connaît bien.
Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches. Pour l'oiseau, peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Thank you. l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, ah, c'est mauvais signe, signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe, signe que vous pouvez signer. Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Retrouvons notre invité, Michel Maldonado, pour son livre « Les beaux jours de l'école normale » paru aux éditions de l'Harmattan. Alors nous nous sommes quittés il y a quelques minutes en évoquant les quelques poètes, et notamment Jacques Prévert. Alors, en vous lisant Michel Maldonado, on retrouve, séjournant dans les locaux de l'école normale, une poétesse auxerroise, sans doute un peu méconnue aujourd'hui, mais qui est une figure folklorique importante pour la ville d'Auxerre.
Oui, c'était Marie-Noël, et c'était une poétesse catholique, une toute petite bonne femme, minuscule, toujours vêtue de noir, et elle avait été recueillie par notre intendante, qui était un dragon d'une certaine façon, mais qui avait un cœur d'or. Qui s'appelait Élise Autissier. Et donc, Marie-Noël habitait chez elle. Et nous voyons régulièrement passer cette petite bonne femme dans le jardin. Nous la voyons à la fenêtre de sa chambre aussi. Elle nous faisait des coucous. Elle a reçu certaines d'entre nous. On la voyait quand même de loin et c'était un peu irréel pour nous.
Elle disparaît en 1967 à l'âge de 84 ans. Et vous vous souvenez de la mort de la poétesse Marie-Noël. Ça a été perte.
Ouais. Oui, vraiment. Et nous avons fait une haie d'honneur le jour de son enterrement.
Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de certaines et certains de vos camarades de promotion, puisque vous brossez les portraits de personnages truculents, de personnages originaux, fantaisistes, et, 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 et qui étaient quand même de joyeux clowns, de joyeux mmh. pitres, et qui vous ont marqué. Alors, commençons d'abord par un personnage féminin, c'est Zig. Alors, Zig, c'est pas n'importe qui, et c'est une sacrée personnalité.
Alors, Zig était beaucoup plus âgé que nous. Bon, nous sommes arrivés à l'école normale à l'âge de 15 ans. Zig avait facilement 17 ans. Elle avait un ami, c'était une vraie adulte, alors que nous étions des petites filles encore.
Alors, pourquoi ce surnom Zig?
Alors, elle s'appelait Marie-Francine Gomard. Donc Zigomar.
Et alors, elle avait un lien de parenté avec un artiste humoriste.
Oui, c'était la nièce de Jean-Marc Thibault. Et elle avait toujours des plaisanteries. Elle arrivait à nous provoquer. Et elle nous poussait dans nos derniers. Elle savait qu'on était innocente, disons, timide, et elle arrivait toujours à nous pousser dans nos retranchements, et tout finissait toujours en éclats de rire, mais elle nous gênait des fois par ses réflexions, ça finissait toujours par des rires.
Alors, il y a quelques personnages masculins, parce qu'on va évoquer les amours normaliennes, vous, la normiote, il y a Gaston. Alors, Gaston, il y a une bonne page et demie qui lui est consacré. Alors, c'est l'époque, bien sûr, il faut replacer ce qu'a été votre formation à l'école normale, donc au début des années 60, on est un tout petit peu avant 68. Vous passez le baccalauréat
en 68.
En 68 hein. Il y a donc Gaston qui est un hippie. Alors, la deux chevaux, c'est la voiture de la jeunesse de l'époque, puisque Gaston, comme Pascal, autre garçon que vous évoquiez, acquerront des deux chevaux. Alors Gaston, c'est un garçon que vous admirez non seulement par une sorte d'érudition époustouflante, passionné de jazz, et puis c'est le, j'allais dire, si je peux me permettre cette expression un peu familière, c'est le trip de l'Inde et de Katmandou,
oui,
de l'ailleurs.
C'était le début, c'est parce que là c'était au tout début, et lui était déjà, il était adulte en quelque sorte, et... Donc on l'appelait Gaston parce qu'il s'appelait Jacques de Fer. Et donc tout le monde avait son surnom. Hein. Moi c'était Minucette, parce que j'étais petite. Et donc Gaston était très, très cultivé. Et il nous épatait en cours de français parce qu'il avait toujours des références que nous étions bien loin d'avoir. Quoi, bien... un jour, il avait parlé de voyeurisme, et nous, le mot voyeurisme, c'était tout à fait, nous était tout à fait étranger. Et lui avait tapé dans le mille. C'était au sujet d'un poème de Baudelaire, Baudelaire qui voit passer un vitrier et qui se met à jeter des pierres dans les vitres, juste pour le plaisir de voir les vitres se casser. Et Monsieur Bourgeois, donc le Molle, nous avait dit alors, comment est-ce que vous appelleriez cet acte, mais personne n'était capable de parler de voyeurisme. Et Jacques l'a dit tout de suite, Gaston a tout de suite parlé de voyeurisme. Pour lui, c'était clair. Et il était vraiment... et il était très gentil, il n'était pas du tout grosse tête, il n'était pas du tout comme d'autres auraient pu l'être, comme d'autres l'étaient.
T'es pas pédant.
Pas du tout, non.
Et qu'est-il devenu ?
Et alors là, aucune idée. Il a écrit un livre sur... Je sais que c'était devenu un grand monsieur à une époque, mais là, je n'ai plus de nouvelles. Il avait écrit un livre sur les graffitis. Et il a passé plusieurs années au Maroc. Je sais, en coopération au Maroc. Mais depuis, je ne sais plus du tout ce qu'il est devenu.
Rain and tears
Alors il y a Pascal, autre figure masculine originale. Alors lui, c'est déjà un peu marginal, adolescent. Il le restera adulte,
toujours.
Oui. Et il sera un professeur atypique, promenant donc un chien dans les allées de sa classe. Donc il avait attaché un morceau de ficelle, donc il promenait dans sa classe.
Il promenait Médor.
Surveillait ses élèves en ouvrant le journal, en ayant fait un trou dans les pages du journal, et il les surveillait pendant les contrôles. Ouais. Et il a plutôt mal fini.
Il a mal fini, oui. Il est mort à cause de son alcoolisme, quoi. Il est mort alcoolique. Mais il était, on l'appelait l'hirondelle. Il était très grand, très maigre. Et il avait, les trois garçons, il y avait trois artistes. Et les trois garçons avaient des capes noires. À l'époque, c'était la mode.
Votre papa qui l'avait
ainsi. Oui, mon père l'appelait l'hirondelle, oui. Et ils avaient leur cape noire, donc on voyait ce grand garçon tout maigre avec sa cape noire, et il jouait les Dracula, quoi. Il faisait exprès de déployer cette cape, et il était aussi très cultivé, mais c'était pas le même genre que Gaston, qui lui est parti, et il est parti à l'étranger, il a fait carrière à l'étranger, alors que Pascal voulait toujours partir. Il était toujours parti. Et en fait, il n'a jamais quitté Auxerre. Il était toujours parti dans sa tête, mais jamais plus loin.
Pouvez-vous raconter aux auditrices et auditeurs cette anecdote, comment trois garçons dans une deux chevaux réussissaient à faire croire que le conducteur conduisait avec les jambes sorties par une portière de la voiture, si j'ai bien compris?
Oui. Alors, il y en avait un qui était assis à la place du conducteur, mais qui regardait, vous savez, les deux chevaux, dans les deux chevaux, il y avait une aération, et c'était une espèce de clapet qui s'ouvrait juste au-dessous du
pare-brise.
Du pare-brise. Et donc, l'un d'entre eux conduisait, alors complètement recroquevillé sur lui-même en regardant par cette aération. Un autre...